RFI.
Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci de votre fidélité. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 30 minutes. Vous le savez, nous sommes vendredi. Ce sera donc la Libre Antenne, l'occasion pour vous tous de nous rejoindre ici à Paris pour commenter l'actualité de votre choix. Vous revenez sur tous les sujets qui vous ont interpellé cette semaine dans l'actualité française, internationale, africaine. Vous savez que tous les sujets nous intéressent. Donc venez lancer le débat en direct 33 9 693 693 70. Vous nous rejoignez également sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, comme tous les matins, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. C'est votre rendez-vous privilégié avec les journalistes de RFI, nos experts ici à Paris, mais aussi nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. Ce matin, nous avons sélectionné par exemple des questions sur Evo Morales. Le président bolivien brigue un quatrième mandat, une décision qui provoque sur place en Bolivie un tollé. Des questions sur la colère sociale en France à la veille de nouvelles manifestations des gilets jaunes, ou encore des questions sur des violences sexuelles en masse au Soudan du Sud. Bonjour Fabrice.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les internationaux du RFI.
Alors vous êtes à Goma, en République démocratique du Congo, le réseau téléphone n'est pas très bon, on va tendre l'oreille, on vous écoute.
Oui, j'ai entendu sur RFI que l'ONU a publié un rapport dans lequel plus de 150 femmes ont été victimes d'agressions sexuelles au Sud-Soudan. Ma question est de savoir dans quelles circonstances ces agressions sexuelles se sont-ils passées.
Alors, le réseau téléphone n'est pas très bon, mais on a compris tout de même l'essentiel. Vous voulez comprendre dans quelles circonstances ces multiples agressions sexuelles se sont tenues, déroulées. C'est vrai que ces comportements ont été dénoncés par de nombreuses ONG et aussi par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Bonjour Nadia Sweeney.
Bonjour Juan.
Journaliste au service Afrique de RFI. Au cours de deux semaines, 157 femmes et filles ont été violées ou brutalisées autour de la ville de Bentiu, dans le nord du Soudan du Sud. Que s'est-il passé exactement?
Alors, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que ce sont des attaques qui ont été ciblées sur des populations. Elles ont eu lieu effectivement entre le 19 et le 29 novembre. Le mode opératoire est systématiquement le même. Ce sont des groupes de 5 à 20 hommes armés, masqués, parfois vêtus d'uniformes militaires. Ils s'attaquent aux femmes qui sont sur le chemin du retour du Bentiu, un village, comme vous l'avez dit, au nord du Soudan du Sud, où se fait notamment la distribution d'aide alimentaire. Ces hommes armés ont systématiquement battu et notamment violé leurs victimes. Elles sont âgées de moins de 10 ans à plus de 65 ans, certaines étaient enceintes. Elles sont originaires de deux villages, Gwit et Nialdiu, à quelques kilomètres de Bentiu, et elles sont principalement issues du groupe ethnique Nuer.
Ouais, et les assaillants sont décrits comme des hommes effectivement armés, portant des uniformes. Certains disent même qu'ils portaient l'uniforme de l'armée populaire de libération du Soudan, qui est donc l'armée de Djouba. Fabrice, vous avez d'autres questions?
Oui, la deuxième question est de savoir, dans sa réaction, le secrétaire général de condamne fermement les agressions sexuelles. Quelle disposition les Nations Unies comptent envisager pour empêcher que ces violences sexuelles ne se produisent?
Oui. Alors, le secrétaire général qui a eu des propos très durs, de tels comportements prédateurs contre les plus vulnérables sont inacceptables, a déclaré Antonio Guterres. Concrètement, sur le terrain, que peuvent faire les Nations Unies?
Alors, les Nations Unies ont une mission présente sur le territoire, c'est l'une des plus importantes de l'ONU sur le continent. Elle s'appelle la MINUS. Sur le terrain, cette mission a pris plusieurs mesures après les attaques. L'envoi de patrouilles quotidiennes dans ces zones touchées pour mieux sécuriser la zone, mais aussi le nettoyage nettoyage du feuillage aux abords des routes qu'empruntent les femmes. Ça peut paraître anecdotique, mais en fait, c'est pour empêcher que les hommes ne puissent s'y cacher. Et puis, il y a l'ouverture d'une enquête, puisque les humanitaires de l'ONU sont en train de recueillir en ce moment un maximum de témoignages dans l'espoir d'identifier les coupables. Cela dit, il faut savoir que cette mission n'a quand même pas de pouvoir judiciaire à proprement parler. D'autres enquêtes ont été ouvertes, notamment de la part de la CTSAM. C'est un organisme créé en 2015 à la suite de la signature du cessez-le-feu entre les protagonistes de la guerre civile. Mais cet organisme, qui a pour but de faire respecter les accords signés, dont l'engagement de ne pas attaquer les civils, cet organisme n'a pas vraiment de pouvoir sur le terrain.
L'ONU appelle toutes les parties au conflit à s'acquitter de leurs obligations humanitaires internationales et à cesser les attaques contre les civils. L'ONU réclame des gestes de la part des autorités pour punir les coupables. Peut-on s'attendre à des procès ?
Alors, c'est très peu probable. D'abord parce que le gouvernement soudanais n'a jamais vraiment enquêté ni puni ce type de crime qui est très répandu dans cette région. Sauf une seule fois, en 2017, 11 soldats de l'armée régulière ont été condamnés, mais pour avoir violé des humanitaires occidentales en juillet 2016 à Djouba. C'était à la suite de violents affrontements entre le gouvernement et les rebelles de Riek Machar. Et c'est sous la pression internationale que les soldats ont été jugés et condamnés. Cela dit, quand cela concerne des femmes soudanaises, c'est l'impunité totale. Il y a un autre élément qui nous pousse à croire qu'il n'y aura pas de sanctions, c'est la réaction du porte-parole du gouvernement régional, Lam Tungwar, qui a tout bonnement déclaré que le rapport de MSF était faux.
Oui.
Les observateurs, en plus, effectivement, vous l'avez dit, soupçonnent l'armée régulière du gouvernement, ou du moins de groupes armés proches, d'être à l'origine de ces exactions, et cela pour plusieurs raisons. D'une part, cette région est sous le contrôle du gouvernement. Ensuite, les femmes agressées sont issues de l'ethnie Nuer, l'ethnie du chef des rebelles, alors que les troupes gouvernementales sont principalement composées de Dinka, le groupe ethnique du président. Or, cette guerre civile a un caractère ethnique très fort. Et au Soudan du Sud, les viols sont massivement utilisés comme une stratégie de nettoyage ethnique. Donc tous ces éléments éloignent franchement l'éventualité d'une enquête sérieuse de la part des autorités et donc de possibles sanctions.
Merci beaucoup Nadia Sweeney d'être venue répondre à Fabrice. Et on s'excuse pour le réseau téléphone, il était particulièrement mauvais. Mais l'essentiel c'était de vous avoir évidemment Fabrice et merci vraiment de l'intérêt que vous portez à l'actualité et à la rédaction de RFI. On repasse au standard au 33 9 693 693 70. Je vous le disais tout à l'heure, nous avons pris ce matin une question concernant Evo Morales, le président bolivien. Il brigue un quatrième mandat. Bonjour Alassane.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous nous appelez du Mali, vous êtes à Sikasso, nous vous écoutons.
Ok. En Bolivie, Evo Morales a été autorisé à briguer un quatrième mandat. Pourquoi le tribunal suprême électoral bolivien a accordé une possibilité à Evo Morales de se présenter une quatrième fois à la présidentielle, alors que la Constitution n'autorise que deux mandats consécutifs?
Ouais, c'est vrai, c'est une excellente question que vous posez. Il est en fonction tout de même depuis 2006. Il est le plus ancien président en exercice d'Amérique latine. Et visiblement, Evo Morales ne semble pas prêt à lâcher le pouvoir. Bonjour Victor Audubert.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Paris 13, spécialiste de la Bolivie. Expliquez-nous comment le tribunal suprême électoral a-t-il pu valider la candidature d'Evo Morales, alors que, notre auditeur le rappelait, la Constitution limite à deux le nombre de mandats consécutifs.
Je vous remercie pour cette question. En effet, on a un article dans la Constitution bolivienne, l'article 168, qui limite à deux mandats, donc normalement le mandat du président et du vice-président. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que depuis 2006, Evo Morales, il est dans une stratégie donc de réélection. Et cette habilitation à se représenter pour 2019, elle fait suite à plusieurs précédents. Déjà, le pouvoir exécutif en 2013 avait demandé au tribunal constitutionnel d'interpréter d'une manière un petit peu originale la Constitution. En fait, juridiquement, c'est un raisonnement assez original, c'est-à-dire que le tribunal avait considéré que le premier mandat d'Evo Morales entre 2006 et 2009 ne comptait pas comme un premier mandat,
ah bon,
puisqu'il se déroulait sous la précédente constitution. Mmh. Et donc, ils ont pris comme premier mandat le mandat débuté en 2009.
Mmh. Donc, ils ont remis les compteurs à zéro à ce moment-là.
Exactement. Mmh. Donc ça, c'est là une première étape. Et puis ensuite, pour se représenter en 2019, donc l'année prochaine, Evo Morales, cette fois, a décidé donc de passer par un référendum en 2016, le 21 février 2016, référendum qu'il a perdu. Mmh. À très peu de voix, il faut l'admettre, à 51% de non. Et donc, il y a eu, après ce résultat, une stratégie donc pour pouvoir se représenter. Et cette stratégie, ça a été encore une fois le tribunal constitutionnel bolivien, qui cette fois a purement et simplement supprimé les articles de la constitution bolivienne qui limitaient le mandat, qui limitaient les mandats.
D'accord.
Et donc, à partir de là, Evo Morales n'a constitutionnellement plus de limites, mmh. Et il peut se représenter une quatrième fois en 2019. Après, donc, ce qu'il faut bien souligner, c'est que le tribunal suprême électoral a habilité Evo Morales à se représenter. Est libre au peuple bolivien de l'élire ou non.
Évidemment. Mais en tout cas, il peut briguer un quatrième mandat, malgré donc ce que stipulait initialement la Constitution, malgré le non, certes, juste, mais enfin, plus de 51% des électeurs avaient dit non à l'époque pour modifier la Constitution et permettre à Morales de se représenter. Vous aviez d'autres questions, Alassane ?
Oui. Comment expliquer la réaction de l'opposition suite à cette décision ?
C'est-à-dire
les opposants peuvent-ils contrer?
Oui, je vous écoute. Quand vous dites quand vous dites comment expliquer la réaction de l'opposition, c'est-à-dire
suite à cette décision du tribunal suprême, est-ce que les opposants peuvent-ils contrer cela?
Alors la réaction de l'opposition, Victor Audubert, elle est vent debout, forcément.
Forcément. Il faut déjà souligner que l'opposition en Bolivie, elle est très éclatée et très disparate. Alors on a évidemment la droite bolivienne, qui historiquement est contre Evo Morales, mais on a aussi une partie de la gauche critique, qui était avant alliée d'Evo Morales et qui progressivement s'est détachée du gouvernement suite à plusieurs décisions politiques contestables. Et donc on a vraiment déjà une opposition qui est éclatée et qui s'unit seulement sur ce programme d'empêcher Evo Morales de se représenter. Donc déjà il y a une difficulté politique à s'entendre. Après les modes d'action de l'opposition politique, ça va être déjà des manifestations.
Il y a des marches. D'ailleurs, des marches qui sont organisées à travers le pays.
Exactement. Hier et aujourd'hui, il y a une journée de grève civique en Bolivie, notamment à La Paz, c'est-à-dire qu'on bloque la ville, très concrètement. Et le principal argument de l'opposition, donc, c'est de dire que voilà, il y a eu ce référendum populaire en 2016 où le peuple bolivien s'est exprimé, et pour autant, Evo Morales ne respecte pas la volonté du peuple et ne respecte même pas la constitution qu'il a fait voter en 2009. Et donc aujourd'hui, ce qu'ils appellent le 21 de febrero,
le 21 février.
Le 21 février 2016, donc. C'est vraiment le slogan un peu fourre-tout qui rassemble toutes les oppositions à Evo Morales, qu'elles soient de gauche ou de droite. Et donc, eux, ce qu'ils demandaient, c'était que le tribunal électoral n'habilite pas Evo Morales. Bon, et le tribunal, évidemment, l'a fait, puisque quelques jours avant cette décision, on a eu la démission de la présidente du tribunal suprême électoral, qui était remplacée au pied levé, donc, par des alliés d'Evo Morales.
Ouais, les prochains mois s'annoncent particulièrement tendus, donc, en Bolivie, en vue, donc, de ce scrutin présidentiel. Merci beaucoup, Victor Audubert, d'avoir pris quelques minutes ce matin pour répondre à Alassane, qui nous appelait, donc, du Mali. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la Bolivie. N'oubliez pas, dans un quart d'heure maintenant, la Libre Antenne, vous commentez l'actualité de votre choix. Je ne vous cache pas que le sujet qui suscite le plus de commentaires au stand, c'est la décision de la Confédération africaine de football de retirer au Cameroun l'organisation de la CAN 2019. Nous allons donc longuement y revenir dans la Libre Antenne, mais d'autres sujets vous ont marqué, notamment certains d'entre vous souhaitent commenter cette colère sociale en France, le mouvement des Gilets jaunes. On reviendra également sur la stratégie de l'opposition au Togo. L'opposition, en tout cas la principale coalition de l'opposition, souhaite empêcher la tenue des législatives dans moins de 2 semaines. Appelez-nous 33 9 693 693 70. Et pour terminer cette première partie des questions, on va parler sport, et une fois n'est pas coutume, on va s'intéresser à la boxe. Alassane, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à tous les partenaires d'Appel sur l'actualité.
Merci. Vous avez des questions, vous, après ce combat qui était tant attendu entre l'Américain Deontay Wilder et le Britannique Tyson Fury. C'était il y a quelques jours à Los Angeles devant 18 000 spectateurs. Vous êtes un passionné de boxe, Alassane ?
Bien sûr, je suis un passionné. Je n'ai pas vraiment dormi parce que le match était pratiquement à 7h du matin. Bien.
D'accord, donc vous vous êtes levé de très bonne heure pour regarder ce match. Quelles sont vos questions ?
Bien sûr. Le week-end dernier, c'est un combat de boxe entre le Britannique Tyson Fury et l'Américain Deontay Wilder, dénommé le combat de l'année par les spécialistes. À ce sujet, j'aimerais savoir pourquoi les arbitres ont déclaré un match nul alors que Fury est allé deux fois au tapis. Et pourquoi certains observateurs ont trouvé Fury vainqueur à la fin du match alors que il est allé deux fois au tapis.
Oui, alors effectivement, c'est vrai que ça a l'air surprenant, mais les juges arbitres n'ont pas su départager les deux hommes, donc au final c'est un match nul. Alors pour vous répondre, un confrère, il est journaliste à l'Équipe, il vient de publier aux éditions Perrin le dictionnaire de la boxe. Bonjour André Arnaud Fourny.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Pour les néophytes de la boxe, et c'est mon cas, peut-être avant de répondre précisément aux questions d'Alassane, présentez-nous les deux hommes. Qui est Deontay Wilder ?
Alors, Deontay Wilder, il a 33 ans. Il est venu à la boxe à 19 ans. Il faisait du basket parce que sa fille, il venait de se marier, et sa petite fille qui venait de naître était atteinte d'une maladie orpheline. Et pour gagner de l'argent très rapidement, il a compris qu'il n'y avait que la boxe. Et depuis 2015, il fait partie des deux hommes qui revendiquent le titre mondial. Malheureusement, en boxe, il n'y a pas qu'un titre mondial. Il y a souvent plusieurs champions du monde. Mmh. Et en poids lourd, il y a deux hommes qui revendiquent le titre. C'est donc Wilder et l'Anglais Anthony Joshua.
Ouais. Wilder, invaincu en 40 matchs, dont 39 victoires par KO. Présentez-nous, là aussi en quelques mots, Tyson Fury, le Britannique.
Tyson Fury, c'est une très très grosse personnalité. Il a 30 ans. Il appartient à la communauté des gens du voyage, bien qu'il soit sédentarisé. En 2015, il devient vraiment le vrai champion du monde en allant battre l'Ukrainien Klitschko. Et pourtant, depuis, après ce combat, il est resté 2 ans et demi sans boxer à cause d'une dépression et d'une dépendance à la cocaïne. Et il a reboxé depuis le mois de juin dernier.
Alors, pour le match, le combat qui nous intéresse, le grand favori, c'était l'Américain. C'était un match très intense. Et le combat s'est terminé en match nul. Pourquoi ? Pourquoi il n'y a pas eu de vainqueur ?
Il s'explique tout simplement parce que les deux hommes ont fait des choses totalement différentes. Tyson Fury a dominé tout le combat, je dis bien tout le combat, parce qu'il a il est imboxable avec ses 2m06, et Wilder, qui lui ne mise que sur son punch et ne boxe, et j'ai envie de vous dire, boxe 20 secondes par round, donc mise sur son punch, a réussi, c'est vrai, à envoyer deux fois au tapis Fury au 9e et 12e round, mais à chaque fois, Tyson Fury s'est relevé, il a pu continuer le combat. Et en boxe, on additionne les points. C'est vrai qu'en envoyant Fury au tapis, il a marqué beaucoup de points, mais il ne faut pas oublier tous les points que l'Anglais avait lui-même marqués dès le premier round.
Oui, enfin, j'entends bien André Arnaud Fourny, vous dites Fury a dominé le combat, et en même temps, au final, les juges arbitres disent match nul.
Oui, parce que justement, il va deux fois au tapis, et notamment dans le 12e round, j'ai envie de vous dire, il y a même beaucoup d'arbitres qui auraient arrêté Fury, qui auraient estimé qu'il n'était pas en état de continuer.
Oui, et on peut imaginer une revanche entre les deux hommes, puisque j'imagine que de part et d'autre, on ressent une certaine frustration après le match, après le combat.
Bien évidemment, surtout que ce deuxième combat fera encore plus d'argent que le premier. Mais il est vraisemblable que ce combat aura lieu dans un stade de football en Grande-Bretagne, où il suscitera encore plus de recettes qu'aux États-Unis. Parce qu'en Angleterre, les boxeurs sont capables de remplir un stade de 90 000 personnes, comme c'est le cas d'Anthony Joshua à Wembley.
Effectivement, en tout cas, il y avait déjà pas mal de monde à Los Angeles pour assister à ce combat. 18 000 spectateurs, combat présenté comme celui de l'année. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, André Arnaud Fourny. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, pour ceux qui aiment la boxe, Dictionnaire de la boxe, aux éditions Perrin. À suivre la dernière édition d'Afrique Matin, et on revient évidemment dans